Guillaume Herner.
Et vous, êtes-vous certain d'avoir la gueule de l'emploi? Comment recrute-t-on en France aujourd'hui? C'est le sujet d'un passionnant documentaire de Didier Cross que France 2 diffusera ce jeudi à 23h10. Nous attendons vos questions sur ce thème au 01 45 24 7000 ou bien sur notre site internet franceinter.fr.
Service public. Demain sur France Inter, à partir de 10h.
France Inter.
La différence.
Et dans l'immédiat sur France Inter, c'est tout de suite le répondeur de là-bas si j'y suis.
Bonjour tout le monde, bonjour Daniel. Edwige Dugard, je suis auxiliaire de vie sociale. Hier, je n'ai pas pu venir en aide au repas du midi pour deux personnes handicapées, car M. Nicolas Sarkozy était dans ma ville. Il m'a été impossible de passer les barrages de police, même en leur expliquant ma mission. Donc ces gens ont dû se passer de mon aide, et moi, j'ai travaillé moins pour gagner moins.
Salut Daniel. Notre président est venu dans nos Cévennes. On voulait lui parler et on l'a attendu sur le stade où il devait atterrir. On était 12, assis dans l'herbe. Mais plus de 50 CRS sont venus nous interpeller, menotter et amener au commissariat où on a été placé en garde à vue, alors que nous n'avons même pas essayé de résister une seconde. Par contre, les CRS ont été particulièrement sympas avec nous. Je pense que notre démocratie est malade, Daniel, et que cet exemple en est le symptôme. J'ai écouté par la suite M. Sarkozy à la télé, qui parle d'abroger 3 permis de gaz de schiste dans la région. Mais il a oublié qu'il en reste une soixantaine. Il essaye de nous enfumer, mais il n'y arrivera pas. Merci pour tes émissions.
Le repère de là-bas si j'y suis d'Aix-en-Provence se déroulera ce jeudi 6 octobre à 19h30. Et Alain Persa interviendra sur le thème de la dette publique. Nous serons heureux de vous accueillir au restaurant Les Cousins, 40 avenue Robert Schumann, face à la fac de lettres. Chaque mois, Frédéric ouvrira spécialement son établissement aux AMG d'Aix-en-Provence. Alors soyons nombreux ce jeudi 6 octobre à 19h30 au restaurant Les Cousins. Bonne journée à tous.
Petite leçon de vocabulaire. La nationalisation, c'est quand l'État achète une société privée, qui devient donc publique. La privatisation, c'est l'inverse. L'État vend une société publique pour qu'elle devienne privée. La recapitalisation, qu'est-ce que c'est? C'est quand une entreprise privée est en train de faire faillite, l'État, le public, lui donne de l'argent pour qu'elle reste privée et qu'elle ne fasse pas faillite. Donc en ce moment, l'État va donner de l'argent aux banques de façon à pouvoir continuer à emprunter aux banques à un taux intéressant. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de nous prendre pour des cons. Plus. Voilà, réfléchissez bien à cette petite leçon de vocabulaire. Kenavo.
Bonjour, mais cette Banque Centrale Européenne, il y a bien quelqu'un qui l'a nommée, ainsi que M. Trichet, son président. Il y a bien une entité politique qui a dû nommer ou qui contrôle cette Banque Centrale Européenne. Donc, quelle est l'entité politique et pourquoi l'a-t-on élue?
Oui, alors moi je dis bravo, hein. Grand moment de là-bas si j'y suis. Moi je connaissais à peu près les infos qui ont été données parce que je m'intéresse assez au domaine, vu que je suis Paris du tout et que j'en ai marre de voir des types non élus, sans aucune légitimité, qui nous pourrissent la vie. Mais il y a quelque chose qui ne m'avait pas sauté aux yeux, c'est le fait qui a été très bien mis en avant par François Ruffel, c'est que Trichet et toute sa clique demandent sans arrêt des nouvelles informations aux États et à toutes les institutions corrélées, et leur formule d'exigence en permanence, comme en Italie par exemple, là. Et en fait, ils ne demandent rien aux banques, quand même. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Hein? Les banques, c'est vraiment une sorte de monsieur loyal, quoi. Les banques, elles sont à la fois les victimes qu'on sauve, elles sont à la fois le criminel, puisque c'est elles qui ont créé les subprimes et tous les problèmes afférents, et en même temps, elles sont le juge. Elles sont le juge, puisqu'elles ont les agences de notation qui sont à leur botte, puisqu'elles sont dans leur capital. Ils sont quand même très forts, les banquiers, il faut le dire. Allez, salut, c'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
La banque prête de l'argent. Oh bah c'est sympa, ça. Et ma fille aussi, elle prête ses jouets. C'est gentil, non? Ah bah oui, merci d'ouvrir un peu les portes des coffres remplis de billets pour nous les prêter un peu. Mais au fait, un prêt bancaire c'est payant, il y a des intérêts. C'est donc une location, non ou... Ah mais attends, la BCE d'où elle les tient tous ces bifetons là? Alors dans le film L'argent dette de Paul Grignon, qu'on trouve facilement sur internet, on apprend qu'à chaque fois qu'une banque accorde un prêt, elle crée en fait de l'argent nouveau. C'est le principe du crédit, ça marche, ça fonctionne comme ça. Ouais, ouais, les banques, et les banques privées ont ce pouvoir. Alors je voudrais vous lire une petite citation qu'il y a dans le film. C'est une citation de David Rockefeller, c'est un discours qu'il a fait à la commission trilatérale en juin 91. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magazine et aux autres grandes publications dont les dirigeants ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer notre plan d'action pour le monde si nous avions été sous la lumière des projecteurs pendant toutes ces années. Mais maintenant, le monde est plus sophistiqué et mieux préparé à la marche vers le gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable à l'autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. Voilà. Donc la commission trilatérale, bah, vous pouvez chercher aussi un petit peu ce que c'est. Sur Internet, c'est assez rigolo. Et je vous recommande aussi de taper Étienne Chouard, article 104. Voilà, ça parle du traité de Maastricht. Voilà, bonne journée à tous.
Et ben voilà, ça tombe très bien, c'est notre sujet du jour, la suite de cette balade à Francfort, au sein de la Banque Centrale Européenne. Oui, 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 le tourisme mène à tout, à tenter en tout cas de comprendre comment fonctionne cette Banque Centrale Européenne et son influence, parce qu'il y en a une très importante, sur les politiques des gouvernements européens et donc par voie de conséquence sur nos vies quotidiennes, sur nos salaires, pour ceux qui ont du boulot, et sur l'ensemble de nos vies. On a eu envie avec François Ruffin de cette série de reportages suite à ce fameux papier qui est sorti dans le Corriere della Sera cet été, repris dans un certain nombre de journaux, dont le Figaro, et qui faisait état de courriers adressés par M. Trichet, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, au tout simplement au gouvernement italien, l'astreignant à un certain nombre de mesures sociales, économiques et politiques. Et là, il y a une véritable gouvernance, sauf que c'est une gouvernance sans aucun contrôle démocratique, ce qui fait que, eh bien, on n'a plus du tout l'espoir ni le rôle de notre jeu démocratique et de contrôler nos gouvernements et nos politiques. Voilà pourquoi nous sommes là, pour essayer de comprendre comment ça marche et comment ça coince. Auparavant, deux choses à vous dire. J'ai parlé de cette soirée qui aura lieu lundi prochain au Cabaret Sauvage à Paris, en commémoration du 17 octobre 1961. On fera des reportages la semaine prochaine, des émissions sur ce sujet. Et cette soirée commencera à 19h au Cabaret Sauvage à Paris. Je rappelle que c'est au parc de la Villette à Paris et au métro Porte de la Villette. Toute une soirée avec Stéphane Hessel, Edwige Plenel, Benjamin Stora, entre autres. J'y serai également et il y aura des musiciens dont les Ogres de Barbac. Je crois qu'il y aura aussi Idir et d'autres musiciens. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est ce jeudi 6 octobre au Lido, au cinéma Le Lido à Limoges. Une soirée, là aussi, sur ce thème du 17 octobre 61, avec la projection du fameux film de Jacques Panigel, Octobre à Paris, et toute une soirée autour de l'association Mémoire à Vivre, qui a été créée il y a exactement pile poil 10 ans, et dans laquelle était impliquée, dans la naissance de laquelle l'association était impliquée, là-bas, si j'y suis. Donc ça, c'est jeudi 6 octobre au Lido à Limoges, et l'autre, c'est lundi 10 octobre au Cabaret Sauvage à la porte de la Villette à Paris. Voilà, et le reste, eh ben, c'est les sous, d'où ça vient, comment ça se fabrique ça, hein, qui décide comment qu'on fait de l'argent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bastille. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Je voudrais lancer un appel angoissé pour renflouer la banque d'Exia. Je lance une collecte nationale, voire internationale, puisqu'elle était aussi belge, pour sauver cette banque. Donner. Je crois que c'est la bonne solution. C'était Crésus. Voilà, salut.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe. Je t'appelle depuis Toulouse. Nous sommes devant la direction régionale de Pôle emploi. Nous, ce sont des associations, des collectifs, des comités, des syndicats, des partis politiques, unis pour la défense des services publics. Nous appelons à la résistance et à la désobéissance chaque citoyen, chaque usager, chaque salarié des services publics ou assimilé. Nous venons aussi soutenir l'action d'une conseillère de Pôle emploi de Toulouse, même que ça ne lui plairait pas beaucoup que je dise Pôle emploi, elle a dit NPE, et je pense qu'elle a raison. Isabelle de Léon a refusé de pratiquer l'entretien unique qui est la conséquence directe de la fusion ANPE-ACEDIC. Elle a été sanctionnée, mais comme elle persiste et signe, elle est convoquée à Paris devant un conseil de discipline le 13 octobre. Si, ça existe, conseil de discipline, ouais. Elle a décidé de commencer une grève de la faim pour protester contre ses sanctions et ses brimades. Voilà, Daniel. Voilà, on te demande deux petites minutes de répondeur pour lancer un appel à la résistance, à la désobéissance civique. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, ça, appel à la résistance à la radio, non? Bon, on veut faire passer un message d'espoir. Oui, il y a des gens qui ne baissent pas les bras. Oui, il y a des gens qui luttent. Oui, il y a des gens qui se battent. Oui, il y a des gens qui espèrent. Et nous, à Toulouse, on est prêts.
Bonjour à tous les auditeurs de la Basse et J'y suis, et particulièrement aux auditeurs du Trégor, dans les Côtes d'Armor. Ce mercredi, à partir de 18h30, se réunira le repère de la Basse et J'y suis de Tréguier, au café L'Aigle Noir. Nous vous invitons à venir discuter de l'alimentation. Que mange-t-on exactement? Comment cette nourriture est-elle produite? Etc. Donc, à ce soir, 18h30, à L'Aigle Noir, Tréguier, Côte d'Armor.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est le Café Repère de Metz qui annonce son prochain repère le jeudi 6 octobre, 18h, au Café La Renaissance de Ruvigny-Saint-Avold. On débattra du thème journaliste citoyen pour simplement se questionner sur où sont aujourd'hui les journalistes qui ne sont pas à la botte du pouvoir et échanger sur les infos, les journaux, les fanzines, les magazines que chacun aura trouvé pour se les échanger. Donc on vous attend nombreuses et nombreux, et puis on s'est aussi basé sur une de tes phrases, Daniel, se mêler de ce qui nous ne regarde pas alors que personne ne nous demande rien. Donc voilà, ça fera partie d'une de nos bases. Donc on vous attend nombreuses, nombreux à 18h jeudi à la Renaissance. C'était Julie. Bonne soirée tout le monde.
Quoi d'autre ?
Là, Daniel, je me trouve presque à côté de chez toi. Je me trouve dans le premier arrondissement à Paris. Il y a la Banque de France avec au-dessus le drapeau européen et le drapeau français. Si je viens ici, c'est que pendant un demi-siècle, le cœur des forces réactionnaires, on peut dire, la pire opposition à la gauche, elle s'est trouvée ici, à la Banque de France. De cette Banque de France au moderne building en verre de l'Euro Tower, c'est comme si on passait de l'ancien mur de l'argent au nouveau mur de l'argent.
C'est justement une des grandes avancées de la construction européenne, c'est que chaque État membre doit assurer que sa banque centrale est indépendante.
Quand la personne vous a dit que c'était bien l'indépendance des banques centrales, ce que cette personne a oublié de vous dire, c'est qu'il y a eu toute une tradition historique de la gauche, notamment de la gauche française, qui a pensé qu'il fallait arraisonner la finance et l'associer aux politiques, et qu'il a d'autant plus pensé qu'elle a eu un certain nombre d'expériences très douloureuses avec une finance indépendante.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec François Ruffin. À Francfort, capitale du capital, la Banque centrale ne fait pas de politique. Vraiment ?
Bon, aujourd'hui, Daniel, pendant que je m'approche de l'Euro Tower à Francfort, on va causer de la création monétaire. Alors évidemment, dit comme ça, si en plus je m'enlise dans les histoires de taux directeurs, d'eurobonds, d'obligations, de marchés secondaires, etc., etc., je me demande comment je vais faire pour ne pas rendre ça chiant. Mais en fait, ça c'est une question très simple qu'on va poser aujourd'hui, et une question assez fondamentale. Comment se fabrique l'argent ? Et pour ne pas rendre ça chiant, et bien déjà ici, à l'Euro Tower, à Francfort, et bien on va pas faire de la technique monétaire, on va pas faire de la technique financière, mais on va faire de la politique. Parce que c'est sans doute la question la plus politique, la création monétaire. Qui peut créer de la monnaie ? Aux mains de qui ça se trouve ? Des États ou des banques ? Et voilà, c'est un instrument, en fait, la création monétaire, c'est un instrument dans la lutte des classes, avec des conséquences énormes sur le partage de la valeur ajoutée, sur les dettes publiques, sur les budgets des familles. C'est tellement politique comme question qu'en fait, on pourrait presque raconter un millénaire d'histoire de France à travers cette question « Qui fabrique la monnaie ?» On peut en tout cas raconter un siècle de la gauche à travers cette question « Qui fabrique la monnaie ?» La gauche qui s'est longtemps heurtée au mur de l'argent à Paris et qui peut-être se heurte maintenant au mur de l'argent ici à l'Euro Tower à Francfort.
Eh oui, nous revoilà à Francfort autour de la question de la création monétaire et plus généralement de la politique monétaire qui constitue depuis fort longtemps, depuis des siècles, pour ne rien vous cacher, un enjeu de lutte essentiel entre la puissance d'argent et la puissance politique. Longtemps contrôlée par le patronat, la Banque de France, souvenez-vous, les aînés, fut nationalisée en 1945. Il y avait à cela quelques raisons. Elle fut alors subordonnée au pouvoir politique. Et moins d'un demi-siècle plus tard, souvenez-vous, les aînés, le législateur rebroussa chemin. Intéressant, non ? Intéressant, oui, d'accord, rébarbatif, sujet dont on n'aime pas beaucoup parler, finit par pas trop y penser pour la plupart d'entre nous, la plupart, car il y en a un certain nombre, extrêmement réduit, qui sait très bien de quoi il est question à travers ses arithmétiques, à travers ses mathématiques et derrière ce jargon de la finance. François Ruffin vient d'évoquer le mur de l'argent. Voici quelques chiffres qui ont été publiés le 22 janvier 2010 dans le quotidien britannique The Independent, présentant une série de chiffres concernant la banque d'affaires Goldman Sachs. Attention, 11,3 milliards d'euros, c'est le montant des bonus distribués par Goldman Sachs en 2009. 15 820 euros, profit réalisé par Goldman Sachs à chaque minute, 15 820 euros. 8,5 milliards d'euros, profit annuel de Goldman Sachs après versement de 11,3 milliards d'euros de bonus. 350 000 euros, c'est le salaire annuel moyen. À Goldman Sachs, il faut rappeler que le salaire annuel moyen au Royaume-Uni est de 29 000 euros. Je continue comme ça autant que vous voulez. 57 milliards d'euros, c'est la valorisation boursière de Goldman Sachs le 21 janvier 2010. Et 40 millions, c'est l'estimation du nombre de personnes ayant perdu leur emploi à cause d'une récession provoquée par les dérives du système bancaire. On est tous en train de comprendre tout ça, soit d'une façon théorique, soit d'une façon culturelle, mais la plupart du temps d'une façon tout à fait concrète dans nos vies quotidiennes. Pour aller plus loin, pour piger un peu plus, on est ensemble jusqu'à 16h, dans la base si j'y suis, à Paris, comme à Francfort, capitale du capital, Banque Centrale Européenne. On n'y fait pas de politique. Vraiment ?
Voyez les amis, laissez-moi compter.
Tout bravé, oh, ils ont tout bravé.
L'édifiante histoire de notre société.
Tout bravé, oh, ils ont tout bravé.
On l'a oublié.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Parce que le service s'est dépassé.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Ce qu'il faut maintenant, c'est consommer.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Et tant pis pour toi si tu peux pas payer.
Tout bravé, où ils ont tout bravé. Tout bravé, oh, tout bravé.
Les acquis sociaux, faut plus en parler.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Parce qu'ils généraient la rentabilité.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Tous les bénéfices, ils vont se les partager.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Y'a que les déficits qu'on va se garder.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Une chose qu'ils ont oublié.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
C'est que nous on est là et qu'on va pas lâcher.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Mais y'a une chose qu'ils ont oublié.
Tout bravé, où ils ont tout bravé.
C'est que nous on est là et qu'on va pas lâcher.
Tout bravé, où ils ont tout bravé. Tout bravé, oh tout bravé. Tout bravé, où ils ont tout bravé.
Alors là, on rentre dans notre salle de marché. Alors, il y a deux grandes parties. Il y a une partie où les gens procèdent à des analyses. Ils vont essayer de comprendre ce dont les banques ont besoin, donc quelle quantité de crédit on devrait accorder aux banques. Et puis l'autre partie de la salle, ce sont des gens qui s'occupent d'organiser les octrois de crédit à ces banques commerciales.
La plupart derrière des écrans d'ordinateur, en costume cravate, des jeunes personnes d'ailleurs.
Très jeunes, oui. Oui, à part moi, le staff est très très jeune.
Voilà, on est avec Paul Mercier, conseiller principal aux opérations de marché à la BCE, qui est là depuis le début de la BCE. Il est belge, il nous l'a dit. Il est très aimable, ce monsieur Paul Mercier, et il nous fait la visite des lieux avec une question toute simple, toute bête, qui est comment se crée la monnaie. Ça, c'est notre question, c'est-à-dire celle de François Ruffin.
Et donc, ce sont ces jeunes personnes qui décident de... est-ce qu'on va créer de la monnaie ?
C'est pas eux qui décident, parce que de toute façon, l'organe ultime de décision, c'est le Conseil des gouverneurs. Par exemple, chaque mardi, nous avons une grosse adjudication de crédits. Les banques viennent nous demander ce qu'elles voudraient bien emprunter.
Tous les mardis, ça, alors ?
Tous les mardis.
C'est-à-dire qu'en ce moment, les banques, elles envoient des demandes, on voudrait bien avoir tant de crédits.
Oui. Et puis alors, ça remonte à notre board qui décide.
Qui décide combien on va mettre sur le marché.
Voilà. Exactement. Encore que dans les circonstances présentes, après la faillite de Lehman, nous avons décidé de permettre aux banques de déterminer elles-mêmes combien elles veulent emprunter. Mais ça fait partie des mesures un peu spéciales que nous avons dû prendre à cause de la crise financière.
Alors on voit que dehors flotte à l'extérieur du bâtiment le drapeau de l'Union Européenne avec ses deux étoiles.
Vous savez, nous sommes au service de l'Europe, hein, et plus particulièrement de l'eurozone, bien entendu, mais... nous sommes au service de la population. Ça, c'est notre première tâche, évidemment.
Suivre les évolutions économiques est une chose. Les influencer en est une autre. Les informations recueillies ne serviraient à rien s'il n'existait pas des instruments permettant de contrôler ces évolutions. La BCE dispose de toute une gamme d'instruments de politique monétaire. En coopération avec les banques centrales nationales, la BCE surveille en permanence le flux de paiement et se tient prête à intervenir en cas d'engorgement.
Alors, on le disait, il fut un temps où les États et la gauche, notamment, comme d'ailleurs la droite, contrôlaient la monnaie. J'évoquais tout à l'heure la nationalisation de la Banque de France à la Libération. Comment est-ce que les États et la France ont abandonné cette prérogative essentielle ? Réponse de Jean-Pierre Chevènement, que vous connaissez, qui est un homme d'État et qui est candidat aux prochaines élections présidentielles.
Comment les États ont décidé d'abandonner cette prérogative ? Je lisais sur Wikipédia que c'est depuis Jean le Bon qu'en France, les rois frappaient monnaie. Donc comment c'est la gauche en France qui a effectué cet abandon ?
Eh bien, il y a eu le traité de Maastricht. Sur lequel je me serais peut-être abstenu si je ne l'avais pas lu attentivement. Et l'ayant lu, je me suis dit, je ne peux pas voter un texte pareil. C'était en 1992, je l'ai combattu. Je l'ai combattu parce que je pense que pour un pays comme le nôtre, se dessaisir de sa souveraineté monétaire, c'est se mettre à la merci de décisions qui ne lui appartiennent plus. Nous avons un euro surévalué, énormément surévalué. Une telle monnaie étouffe les exportations, favorise les délocalisations. Et moi, je crains que la France se transforme peu à peu en grand parc d'attractions à l'extrémité occidentale du continent eurasiatique, avec beaucoup de touristes, non seulement chinois, mais venant du monde entier.
Mais donc, pour vous, la date clé, c'est le traité de Maastricht de 1992. Il peut y avoir 1983, le moment où la gauche accepte le système monétaire européen.
Elle accepte le Francfort et elle accepte ce qui conduit à la monnaie unique. Autrement dit, c'est un dessin étalé sur près de 30 ans bientôt.
Alors, dans votre livre « Défi républicain », vous écrivez, je crois que c'est en 1979, au sein du Parti socialiste, « Nous fîmes condamner la création par Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt d'un système monétaire européen » dont l'effet serait de brider les initiatives et de rétrécir les marges d'un futur gouvernement de gauche. Alors comment ça se fait qu'en 79, il y a la condamnation de ce système monétaire européen et qu'ensuite, une fois la gauche arrivée au pouvoir, il ne va pas y avoir de combat contre ce système monétaire européen qui préfigure l'euro en fin de compte, mais il va y avoir une acceptation de ce SME ?
Ben si, ce combat s'est poursuivi, je l'ai mené. Et je l'ai perdu, car François Mitterrand hésitait en 1983. Il a été convaincu par un certain nombre de gens, essentiellement Jacques Delors et Pierre Monroy, qu'il fallait rester dans le système monétaire européen, dont mon collègue allemand me disait qu'il était un système de subvention à l'industrie allemande. Eh bien, François Mitterrand, qui au départ, sur les conseils de Jean Riboud, était décidé à décrocher au moins temporairement, s'est laissé convaincre du contraire. Moi, j'ai démissionné, hein, je vous le rappelle. Un ministre, ça ferme sa gueule, sinon ça démissionne. C'est de cette époque-là.
Vous avez démissionné parce qu'on ne décrochait pas du système monétaire européen ?
Je considère en tant que ministère de l'Industrie qu'on ne pouvait pas remonter le courant et réindustrialiser le pays si, en même temps, on gardait une monnaie trop forte. Je l'avais indiqué à François Mitterrand dès juin 1981.
France 2.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'événement est majeur, il est historique et concerne près de 300 millions de citoyens. Depuis hier,
2 mai 1998,
les participants au sommet de Bruxelles n'économisent pas leurs mots. Fait unique dans l'histoire de l'humanité, le commencement d'une ère nouvelle, tous s'accordent à dire que la monnaie unique, construite par la volonté de nations indépendantes, est d'une portée immense.
Oh, Dumas, ça patifole, ça fredonne en bleu et or, ça flotte au vent et ça s'affole, ça nous nargue cependant, des étoiles en cercle sous nos yeux, et réunification de vieux colons de notre histoire, qui mènent les foules aux abattoirs, rassemblés pour fuir leur mémoire, ça fédère cette ambiance austère et ça m'amène dans ce calvaire. Ça vient d'en haut, c'est traître mort.
L'euro, c'est la monnaie, pour concurrence, c'est le dollar, pour les renards de la finance,
ou les avances sans conscience, ça change rien à ton ghetto, faudra toujours se le béton, l'économie de nos pays est partie bien loin de l'oubli.
Attention, attention, messieurs, dames, on va te voir.
Ça parle monde et ça s'évente, ça s'enrichit de grands slogans et ça s'oriente dans la vente en oubliant la vie des gens ou en nous prenant en otage, loin des cultures et du partage d'un monde qui se voudrait plus sage, loin de l'amour et du visage, pourrait briser toutes les frontières sans devoir marchander son frère. Et à quoi bon s'unir pour être plus fort si l'on s'enlise dans cet
On a parlé d'Europe sociale, mais on a eu une banque centrale. Ils veulent combattre l'Amérique
sur le terrain économique. De la fusion, fonds de pension, ils construisent notre prison. Et pour l'Afrique avec la peau, c'est qu'ils n'auront pas d'euro. L'euro, c'est la monnaie pour concurrencer le dollar. Pour les renards de la finance, où les âmes sans conscience ne changent rien à ton ghetto.
Alors, une mission qui est depuis le traité de Maastricht, il me semble, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est émettre la monnaie légale et contrôler la création monétaire de l'ensemble du système bancaire. Donc ça veut dire que là, j'ai dans ma poche un billet de 5 euros.
Oui, c'est pas très repassé d'ailleurs.
Non, non, mais c'est dans ma poche. Il a fallu que je les sorte pour passer sous le portique de sécurité. Donc,
ah oui, oui,
alors
oui,
là,
oui,
oui. Sur les billets, il y a une signature.
Oui.
C'est quoi? C'est la signature?
Ça, c'est la signature de M. Trichet. Du président Trichet.
D'accord.
Ça, c'est une tradition dans les banques centrales. Par parenthèse, d'ailleurs, il fut une époque, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle encore, où les gouverneurs signaient manuellement chacun des billets qui étaient émis par la banque centrale. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus se le permettre parce qu'il y a quelques milliards de billets en circulation. Mais c'est un symbole. C'est une façon de dire, regardez, il y a quelqu'un, et ce quelqu'un, dans notre cas, c'est le président de la Banque Centrale Européenne. Ça veut donc dire que derrière lui, il y a une équipe, il y a une institution. C'est le symbole de la garantie que l'on donne à cette monnaie, qui après tout n'est que du papier. Hein. C'est du papier,
alors, qui, y a du papier
avec un peu d'encre. Quoi.
Voilà, il y a du papier et de la ferraille, puisque j'ai aussi 2,20
euros
en monnaie. Alors quand dit émettre la monnaie légale, est-ce que ça veut dire que ça, c'est fabriqué ici?
Pas exactement en pratique. C'est-à-dire que les banques centrales nationales ont des imprimeries. Vous avez une imprimerie en plein dans le centre de la France. Mais il y a un travail physique d'impression. Mais ça, c'est du travail d'imprimerie. Ça, c'est une forme de monnaie, pièces et billets. C'est la forme traditionnelle que l'on connaît. Mais vous savez aussi que vous avez de l'argent, comme on dit en langage courant, parce que vous avez un peu des sous sur votre compte courant. C'est aussi de la monnaie. Et cette monnaie-là, elle est créée par les banques. Et donc, le rôle de la banque centrale, c'est aussi contrôler la création monétaire qui est faite par les banques.
Je croyais que c'était les États qui créaient la monnaie.
Non.
Alors j'ai regardé sur Wikipédia, tout bêtement. Hein.
Ouais.
Depuis Jean le Bon, il me semble, c'était en France, c'était les rois qui frappaient monnaie.
Oui, oui.
Ensuite,
absolument.
Pendant la Révolution française, ça a été les révolutionnaires qui ont fabriqué des assignats. Enfin, je pensais que c'était les États qui fabriquaient la monnaie, moi.
Vous pensez bien, mais vous pensez à l'histoire. Et c'est justement parce que les assignats en France, les assignats étaient soi-disant couverts par de la terre, et puis on s'est aperçu que les assignats émis couvraient peut-être toute la surface du globe, donc la monnaie perdait de sa valeur. Et c'est de là que vient justement l'idée de créer des banques centrales pour prendre en main ce travail particulier, parce que les États ont une tendance, les chefs d'État de gouvernement ont une tendance naturelle à fabriquer de la monnaie chaque fois qu'ils jugent que c'est nécessaire. À la limite, aujourd'hui, il les ferait à la photocopieuse, si vous voulez, des billets. Et de là, les banques centrales, mais les banques centrales n'ont pas existé toujours.
Mais alors, même les banques centrales, elles étaient liées à l'État. En 1945, en France, il y a la nationalisation de la Banque de France. Donc c'est quand même s'il y a une banque centrale, c'est encore l'État qui décide qu'on émet la monnaie.
Ça, c'est justement une des grandes avancées de la construction européenne. C'est qu'avant de pouvoir participer à la zone euro, chaque État membre doit assurer que sa banque centrale est indépendante. Et c'est une espèce de protection que les rédacteurs du traité ont voulu, protection des États contre eux-mêmes, parce qu'il y a cette tendance justement à vouloir créer trop de monnaie, c'est très facile, hein, l'État veut dépenser, peu importe pourquoi, et donc on imprime des billets, on fait tourner la planche à billets. On s'est rendu compte au fil des années, des siècles, même que c'était justement ce qui menait à l'inflation et parfois à des inflations catastrophiques. Et c'est comme ça que, de plus en plus, on a donné aux banques centrales plus de pouvoir et plus d'indépendance.
Alors ça, en France, c'est au 1er janvier 1993, il me semble, que l'État ne peut plus fabriquer la monnaie.
Pour la France, je ne connais pas la date exacte, mais c'est probablement à peu près dans cette période-là. Mais ça a été un peu différent d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, depuis le 1er janvier 1999, là... Si la Banque centrale n'est pas indépendante, le pays en question ne peut pas devenir membre de la zone euro.
BCE, trois petites lettres auxquelles chaque habitant du futur Euroland va devoir s'habituer. Car dès le 1er janvier prochain, c'est cette Banque centrale européenne installée à Francfort d'ici le mois de juillet
TF1.
Qui sera chargée de la gestion quotidienne de notre nouvelle devise, l'euro.
3 mai 1998.
Une gestion fondée sur un principe absolu. Maintenir la stabilité des prix dans les 11 pays de la monnaie unique. Et comme la Banque centrale des États-Unis, la Banque centrale européenne sera totalement indépendante des pouvoirs politiques nationaux. Mais cela veut dire pour chaque pays qu'il faudra poursuivre les efforts réalisés pour limiter déficit budgétaire et dette extérieure. Autrement dit, plus question de faire bande à part. Ainsi, il ne sera plus question pour chaque gouvernement national de jouer tout seul la relance de son économie. Il devra se plier à la discipline de l'euro et de la BCE.
Bon, mais je vais aller déposer mes chèques de remboursement de frais à l'agence de la Caisse d'épargne de Saint-Pierre-d'Amiens, qui est ouverte bienvenue 7 jours sur 7, tous nos services sur 7 jours sur 7. Avant d'aller à la Banque Centrale Européenne, tu vois, je croyais que c'était comme ça que ça se créait, l'argent. Je croyais que c'était comme ça que ma banque avait de l'argent. C'était simplement parce que... mes formidables payes de l'Angouabel, si j'y suis, étaient envoyées directement sur mon compte. Et je croyais que c'était en déposant des chèques et ainsi de suite que ma banque avait de l'argent. Et qu'après, bah, avec mon argent, votre argent, notre argent, elle pouvait prêter pour acheter une maison, pour aider une entreprise et ainsi de suite, ou elle pouvait spéculer avec ça. Déposer mon chèque. Et je croyais que c'était comme ça, concrètement, tu vois, en baissant et en remontant une poignée, en glissant mes chèques dans l'urne, je croyais que c'était comme ça que les banques, elles avaient de l'argent sur leur compte. En fait, là, mon argent, mes formidables payes de la passe, j'y suis, c'est qu'une toute petite partie de l'argent de ma banque. Les dépôts, on appelle ça, c'est qu'une toute petite partie de l'argent de ma banque. L'essentiel de l'argent de ma banque, c'est par les emprunts auprès de la banque centrale. Tu vois, de ce que j'ai compris, c'est comme ça que se crée l'argent. C'est une simple ligne qui est modifiée sur un écran informatique à Francfort. Et il n'y a pas d'or, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, il n'y a rien derrière. Les billets et les pièces de monnaie, ça représente qu'une toute petite partie de la monnaie scripturale, de la monnaie informatique. Et c'est simplement quand la ligne est modifiée à Francfort, et ben voilà, l'argent est créé. C'est tellement simple qu'on veut pas comprendre. J'avais lu ça dans les livres, mais j'ai compris ça concrètement en allant à la Banque Centrale Européenne à Francfort.
Chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi un immense plaisir, une troublante émotion et un grand honneur de vous annoncer que nous allons suivre en direct du grand stadium de Mégalopolis l'allocution de Monsieur Maxime Van der Love, notre bien-aimé président, directeur général des États-Unis d'Europe. Et n'oubliez pas que cette émission vous est offerte par...
Méga-Cola ! Méga-Cola !
Méga-Cola !
Consommatrice, consommateur, cette Europe dont la responsabilité pèse sur mes épaules se trouve à un tournant. D'aucuns prétendent que nos routes, nos télécommunications, nos espaces de cultivation accélérés, nos coupoles d'existence expérimentale traversent une crise. Une crise ? Mais bien sûr ! Et la plus saine que l'on puisse imaginer. Une crise de croissance. Et quel est le père qui ne se réjouit pas de voir grandir ses enfants ? Grandir et prospérer ! Mon gouvernement a su résoudre l'équation. À chacun la consommation qui lui échoit, selon la production qui lui incombe. Oui, chers citoyens consommateurs, l'avenir vous sourit comme je vous souris en ce moment.
Il
gouvernementale. Faites comme notre président, utilisez vous aussi PDG, la pâte dentifrice gouvernementale. Du dent si blanche, c'est un scandale. PDG.
Comprendre comment fonctionne la Banque Centrale Européenne, ça n'est pas tout à fait perdre son temps. Souvenez-vous de cette voix qui, à l'instant, nous disait, c'est une archive de mai 1998, qui nous disait « Désormais, les gouvernements doivent se plier à la discipline de la Banque Centrale Européenne. » Se plier à la discipline de la Banque Centrale Européenne, alors que cette Banque Centrale Européenne échappe à tout contrôle démocratique. Ce qui fait que, eh bien, tout simplement, les instances élues n'ont plus la capacité d'intervention sur les politiques macroéconomiques, les grandes lignes politique est réduit à des sujets un peu secondaires, un peu subalternes. Mais là, il faut se plier aux injonctions et quasiment aux ordres. On l'a vu avec ce qu'on a évoqué dans les reportages précédents, à cette mise quasiment sous tutelle du gouvernement italien au cours de l'été. Et invariablement, depuis sa création, depuis 1998, la réponse de la Banque Centrale Européenne au problème du chômage, au problème de la flexibilité, au problème, à tous ces problèmes que nous connaissons, reçoivent la même réponse au nom de la sacro-sainte stabilité. Eh bien, la réponse est « ça ne changera pas, on ne changera pas ». Et donc, on va accroître tout ce que nous savons sur le chômage, les privatisations, etc. C'est là qu'on trouve l'une des causes, sans doute pas la seule, de ce que nous vivons quotidiennement. Ça méritait d'être un peu éclairé. Alors à tout cela, il y a une histoire. On a commencé à évoquer que, par exemple, la nationalisation de la Banque de France en 1945 et cette lutte entre le pouvoir de la banque, enfin le pouvoir de la création monétaire et le contrôle monétaire et le pouvoir politique. Sur ce sujet, les explications de Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique et auteur d'un livre intitulé « Quand la gauche essayait ».
Serge Halimi, lors de ma visite à la Banque Centrale Européenne, j'ai rencontré le responsable de la salle des marchés, qui m'a expliqué comment était créée la monnaie, comment elle était créée finalement à la Banque Centrale Européenne via les demandes des banques commerciales. Et il me présentait cette indépendance, cette création privée du crédit, comme un grand progrès, comme, disait-il, un acquis de la construction européenne.
C'est un progrès de la même manière que vous estimeriez que c'est un progrès si la politique militaire était décidée par les généraux et la politique de santé uniquement par les laboratoires pharmaceutiques. On peut penser qu'il est quand même important qu'une autorité supérieure, démocratique, qui n'a pas uniquement les intérêts des financiers à l'esprit, arbitre les décisions importantes qui concernent la finance. Et il faut voir que quand la personne vous a dit que c'était bien l'indépendance des banques centrales, ce que cette personne a oublié de vous dire, c'est qu'il y a une période où déjà l'argent, les banques centrales privées, ça existait, et qu'il y a eu toute une tradition historique de la gauche, notamment de la gauche française, qui a pensé qu'il fallait arraisonner la finance et l'associer aux politiques, et qu'il a d'autant plus pensé qu'elle a eu un certain nombre d'expériences très douloureuses avec une finance indépendante.
Là, Daniel, je me trouve presque à côté de chez toi. Je me trouve dans le premier arrondissement, rue Croix des Petits Champs, à Paris. Et là, il y a la Banque de France, avec au-dessus le drapeau européen et le drapeau français. Évidemment, un planton en faction dans sa petite guérite devant l'entrée. Si je viens ici, c'est que pendant un demi-siècle, le cœur des forces réactionnaires, on peut dire, la pire opposition à la gauche, elle s'est trouvée ici, à la Banque de France. Parce que bon, il y a peut-être la Banque Centrale Européenne comme opposante à la gauche européenne, mais avant ça, il y avait déjà la Banque Centrale Française comme opposante à la gauche française. Alors là, il faudrait s'imaginer, ici, rue Croix des Petits Champs, il y a 140 ans, Daniel, au moment de la commune, s'imaginer les communards, les chefs communards, donc Varlin, Delescluze, etc., venir négocier gentiment des prêts avec la Banque de France. Ils ont été trop timides, ils n'ont pas osé se saisir de tout l'or de la Banque de France, de tout l'or qui se trouvait ici. Ils sont allés négocier, ils ont mandaté des délégués, et finalement, ils ont obtenu 1 million de francs, puis un nouveau 1 million de francs, des petits millions. Pendant ce temps-là, la Banque de France, elle faisait partir tout son or à Versailles. Il y avait des convois d'argent, là, on entend passer les voitures, mais c'était des convois de chevaux, des chariots entiers remplis de lingots qui partaient à Versailles, qui partaient à Thiers, au moins 250 millions de francs, qui partaient à Versailles pour armer les soldats qui viendraient écraser la commune. Ça, c'était en 1871, mais en 1924, avec Herriot, ce qu'on a appelé le mur de l'argent, c'était ici. C'était ce mur, effectivement, ce long mur. Alors, c'est pas le building de l'Euro Tower, mais c'est 150 mètres de bâtiment haussmannien de cette Banque de France, rue Croix des Petits Champs, au moderne building en verre de l'Euro Tower. C'est comme si on passait de l'ancien mur de l'argent au nouveau mur de l'argent. Serge Alimi, je me suis rendu au rue Croix des Petits Champs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là.
Non.
Je me suis rendu simplement devant la Banque de France, qui se trouve dans le premier arrondissement, rue Croix des Petits Champs, puis ensuite à Francfort, devant l'Euro Tower. Et c'est comme si on passait de l'ancien mur de l'argent au nouveau mur de l'argent.
C'est une expression fameuse, un peu comme les 200 familles, qui date du cartel des gauches. La Banque de France, à l'époque, a un conseil d'administration qui est constitué par les grandes fortunes du pays. Et c'est eux qui déterminent la politique monétaire du pays. Et, en quelque sorte, les gouvernements sont tributaires de l'accord de ce conseil d'administration. C'est un peu comme si le MEDEF, si vous voulez, constituait le conseil d'administration d'une banque qui prête de l'argent au pays. Alors, systématiquement, vous aurez les patrons qui vous diront « on peut vous prêter de l'argent ». Mais à telle condition. Si vous menez telle politique, vous allez affoler les marchés, et donc ça n'est pas une bonne idée, on ne vous prêtera pas d'argent. En revanche, si vous menez une politique responsable, qui rassure les marchés, eh bien on est tout à fait prêt à vous aider. Donc quand la gauche arrive au pouvoir, quand Édouard Herriot arrive au pouvoir en 1924, elle a un certain nombre de possibilités. Première possibilité, un impôt sur le capital. Après tout, c'est dans le programme de la gauche. Eh bien, elle va refuser d'emblée, cette possibilité, elle va l'écarter. Pourquoi ? Parce que la Banque de France, le mur de l'argent, promet à Herriot qu'elle continuera à faire des avances au trésor, mais uniquement si Herriot est sage. Et la preuve de la sagesse d'Herriot, c'est naturellement qu'Herriot soit capable de conserver la confiance des épargnants, c'est-à-dire qu'il renonce à l'impôt sur le capital. C'est pour ça qu'on parle en quelque sorte du cartel des gauches et du mur de l'argent, parce qu'il y a une politique délibérée des régents de la Banque de France qui consiste à acculer la gauche, à lui faire mener une politique qui n'est pas la sienne, et puis après, une fois qu'elle est affaiblie, à porter les stockades.
C'est-à-dire que là, la Banque de France, elle apparaît comme un acteur politique, finalement comme la vraie opposition à la gauche dans le pays.
Absolument, c'est une opposition d'ailleurs. La Banque de France, la personnalité la plus importante à l'époque, c'est de Vindel, qui possède cet empire en Lorraine et qui déteste Herriot. Il est engagé, il est même député de droite.
Quand la Banque de France jouait ce rôle d'opposant sous le cartel des gauches, mais aussi, on pourrait revenir, sous la commune, la gauche, elle en a peut-être tiré une leçon politique de se dire, bah voilà, l'adversaire, il est là, et puis peut-être qu'avec cet adversaire-là, il ne faut pas temporiser, quoi.
Bah, à vrai dire, elle tirera une leçon politique du cartel des gauches, puisque en 1936, la Banque de France sera essentiellement nationalisée. Que ce type de chantage ne sera plus possible en 1936 et qu'elle sera carrément nationalisée à la Libération, parce que c'est l'idée de ceux qui sont à la fois des gaullistes, des communistes, des socialistes, etc., qu'il faut que l'État ait les moyens de sa politique et qu'il est tout à fait impossible que les armes monétaires et financières échappent à l'État démocratique.
Quand le Front populaire décide, vous dites, de nationaliser la Banque de France, comment elle réagit ?
Là, à ce stade-là, c'est fini parce qu'il y a eu quand même 12 ans de pédagogie sur le mur de l'argent, les 200 familles, qui font qu'il est évident que quand la gauche arrivera au pouvoir, elle ne se laissera pas piéger de manière aussi grossière. Une nouvelle fois, elle fera d'autres erreurs. Mais cette erreur-là, qui consiste à être entre les mains des régents de la Banque de France, des ennemis acharnés de la gauche au pouvoir, pour mendier un peu d'argent pour mener sa politique économique et financière, cette erreur-là, elle ne va pas la faire.
La surprise, quand on raconte cette histoire, je trouve, c'est qu'au fond, il y a un acquis politique, un acquis intellectuel de la gauche qui, suite à la Commune de 1871, suite à l'histoire du cartel des gauches, décide de nationaliser le crédit, de nationaliser la Banque de France. Et pourtant, c'est la gauche qui, en abandonnant la Banque de France, en créant une Banque Centrale Européenne et une Banque Centrale Européenne indépendante, c'est comme si on liquidait cet héritage intellectuel acquis dans la douleur, dans les luttes, dans les échecs.
Absolument. Ce qui s'est passé dans le cas de la gauche au pouvoir, c'est que cartel des gauches, Front populaire, Libération, à chaque fois la gauche avait tiré les conséquences de ses échecs précédents pour obtenir des armes supplémentaires qui lui permettraient de lutter contre le pouvoir de la finance. Donc en 1924, on avait compris ce qui s'était passé. On avait nationalisé la Banque de France en 1936. À la Libération, on avait créé un secteur nationalisé, on avait nationalisé les banques pour précisément avoir les moyens d'une politique financière. Et à partir de 1981, non seulement la gauche ne va pas se créer d'armes supplémentaires, mais va détruire celles qu'elle s'était constituées dans les décennies précédentes. À partir de 1982 et 83, il y a le virage libéral de la gauche. Le programme, en tout cas, de rupture avec le capitalisme, changer la vie, est remisé. Et il faut substituer à cette mystique de gauche une autre mystique. Et l'autre mystique, à partir de 1983, avec Mitterrand, avec Delors, avec Mauroy, ce sera la mystique européenne, faire l'Europe. Le seul problème, c'est que quand la gauche veut faire l'Europe à partir de 1983-84, elle veut la faire avec un certain nombre de gouvernants qui sont des gouvernants conservateurs et qui ont une vision de l'Europe qui est essentiellement le marché unique, l'union monétaire. Et faire l'union monétaire, ça veut dire renoncer au contrôle de la Banque de France, accorder son indépendance à la Banque de France, créer la Banque Centrale Européenne et donc de fait annuler toutes les politiques qui ont été menées par la gauche à partir des leçons du cartel de 1924.
Ce renoncement, il est néanmoins présenté comme quelque chose de positif avec le mot « indépendance ».
Absolument, c'est ce terme d'indépendance qui est très trompeur. Si on disait que l'indépendance de l'armée, ça veut dire qu'elle n'obéit pas aux politiques, tout le monde tressaillerait. Ou l'indépendance de la police, c'est qu'elle n'obéit pas aux politiques, tout le monde tressaillerait. Quand il s'agit de la finance, c'est relativement accepté.
Quand je suis à la salle des marchés, où on me présente comment se crée la monnaie, je réalise que l'indépendance, c'est quasiment une privatisation du crédit.
C'est une privatisation, oui, de fait. D'ailleurs, il y a le traité de Maastricht et puis maintenant le traité de Lisbonne qui stipule que les gouvernements n'ont pas le droit de donner d'instructions à la Banque Centrale Européenne, qu'elle ne reçoit pas d'instructions. C'est donc assez extraordinaire, parce qu'on estime que les autorités démocratiques issues du suffrage universel ne peuvent pas donner d'instructions à une autorité financière qui détermine la vie économique et sociale de la nation.
Voilà, troisième volet de cette suite de reportages sur la Banque Centrale Européenne, un reportage de François Ruffin. Merci à Paul Mercier, merci à Jean-Pierre Chevènement, auteur d'un bouquin « La France est-elle finie ?». Merci aussi à Serge Halimi, auteur de « Quand la gauche essayait ». Et puis je vous recommande le numéro de « Manière de voir » du Monde diplomatique, le casse du siècle, la crise bancaire vue par les auteurs et journalistes du Diplo. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, où Grégory Salomonovitch attend vos messages. Éric Morin et Michel Bézikian étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission assistée de Marina Touyez. Réclame.
France Inter et le Théâtre 71 de Malakoff présentent Instant Critique, mise en scène et adaptée par François Morel, avec Olivier Broche, Olivier Saladin et Lucrèce Sacella, autour des voix légendaires de Jean-Louis Borry et Georges Charansol, du Masque et la Plume.
Alain Delon pan, Alain Delon est fou de joie. Plus difficile, Alain Delon va au Watteau.
Non, Alain Delon ne va jamais au Watteau.
Retrouvez Instant Critique jusqu'au 23 octobre au Théâtre 71 de Malakoff, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Quand on achète un logement, on est toujours un peu perdu. Heureusement, la certification NF Logement vous aide à vous y retrouver. Choisir un logement certifié, c'est l'assurance d'un logement de qualité, confortable et performant. Et en plus, avec le label BBC, bâtiment basse consommation, vous êtes sûr de réaliser des économies d'énergie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur qualitel.org.
C'était un message de Qualitel, l'association pour la qualité du logement.
Préfonds Retraite, vous connaissez ? C'est le numéro 1 de la retraite complémentaire facultative de la fonction publique. Aujourd'hui, nos experts vous conseillent au 30-25 pour vous préparer des revenus à vie sécurisés et bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Oui, vous ! En France, 10 millions de personnes peuvent en profiter. Appelez vite le 30-25.
Préfonds Retraite. Complémentaire et nécessaire.
30-25, appel gratuit depuis un poste fixe.
Vous avez une belle boucherie, une chambre froide, deux rôtissoires à gaz, trois hachoirs électriques... Et pour tout ce petit monde, une seule facture pour vos deux énergies. Pour vous, nous avons mis les bouchées doubles.
Appelez votre conseiller EDF Pro. Il vous proposera des offres d'électricité et de gaz naturel avec une seule facture pour simplifier la gestion de vos deux énergies. Plus d'informations sur EDF Pro au 0810 333 776. Prix d'un appel local hors surcoût éventuel selon opérateur. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
16h et quelques secondes sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la passe si j'y suis. Les infos, Laetitia Gaillet. Salut.
La Grèce doit continuer de faire partie de la zone euro et l'Allemagne juge justifié de recapitaliser les banques européennes qui en ont besoin. Berlin se dit prêt à le faire. Les mots d'Angela Merkel cet après-midi lors d'un point presse à Bruxelles. Un pour la Grèce donc qui vit aujourd'hui une nouvelle journée de mobilisation de ses fonctionnaires contre les mesures d'austérité. Et un mot pour Dexia, la banque franco-belge qui connaît de sérieuses difficultés aujourd'hui pour s'approvisionner sur les marchés et dont le démantèlement est aujourd'hui en marche. En France, la taxe sur les sodas dans le cadre du plan anti-déficit va évoluer. Elle ne sera pas élargie aux boissons dites light, comme le souhaitait le député UMP Bernard Rennes. En fait, elle sera probablement doublée. C'est ce qu'a expliqué Valérie Pécresse, la ministre du Budget, aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. Isabelle Raymond.
Le gouvernement se dit sensible à la proposition du député UMP Bernard Rennes d'élargir la taxe sur les boissons sucrées à celles qui contiennent des édulcorants, mais ce n'est pas la piste retenue pour l'instant par Bercy. La piste de travail la plus sérieuse n'est pas en effet un élargissement de la taxe au soda light, mais plutôt un doublement de celle-ci sur les boissons sucrées par rapport à ce qui avait été annoncé au départ. Résultat, une taxe de 2 centimes par canette au lieu des 1 centime prévu initialement, taxe qui servirait à quoi ? Non plus, en tout cas dans sa globalité, à lutter contre l'obésité et à combler le trou de la sécurité sociale, mais plutôt à venir en aide aux agriculteurs par le biais d'allègements du coût du travail, allègements de charges de l'ordre d'un euro par agriculteur, une mesure promise par le Premier ministre François Fillon lors du congrès du principal syndicat agricole, la FNSEA, en mars dernier. Elle devrait être effective dès le 1er janvier 2012, en même temps que la nouvelle taxe sur les boissons sucrées. Les suites de l'affaire Nerel, les quatre autres policiers mis en examen hier sont tous aujourd'hui suspendus de leurs fonctions au sein de la police. La responsable de la banque JP Morgan en France a été agressée hier soir à son domicile dans l'Essonne. Deux personnes cagoulées ont fait irruption chez elle après le départ de son mari. Elles l'ont menacée avec une arme avant de la ligoter. Les malfaiteurs sont partis avec plusieurs effets personnels. On ignore pour l'instant si cette agression est liée à ses activités professionnelles. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes aujourd'hui à Pau. Il s'agit de déterminer les causes de la fuite d'ammoniac hier sur le site du groupe Yara Pardi. Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement. Europe Écologie Les Verts n'apprécie pas vraiment la candidature de Corinne Lepage. Le Parti des Verts reproche aujourd'hui à la présidente de CAP 21 sa stratégie solo au lieu de jouer collectif pour l'écologie politique. Corinne Lepage en effet annoncé hier qu'elle entrait dans la course à la présidentielle. L'UMP n'a pas encore officiellement de candidat à la présidentielle, mais la semaine prochaine, il aura un comité de pilotage qui synthétisera son programme pour la présidentielle. Les militants UMP devront ensuite l'approuver lors d'un vote en fin d'année, annonce aujourd'hui du secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé. Renault prend l'option brésilienne. Le constructeur automobile français annonce aujourd'hui qu'il va investir 200 millions d'euros dans son usine de Curitiba dans le sud-est du pays. Enfin, l'hécatombe continue chez les joueurs de l'équipe de France de football. Pas sûr qu'Abidal puisse jouer vendredi avec les Bleus lors du match contre l'Albanie, comptant pour la qualification à l'Euro 2012. Le défenseur souffre toujours d'une lésion à la cuisse. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Una art to vous.
Nous serons à Lyon au Festival Lumière. Des cinéastes et des acteurs aiment les films d'autres cinéastes et d'autres acteurs.
Je t'aime. Sens-le bien sur toi. Allez, sens-le. En même temps, tu vas lui dire je t'aime.
Voici notre générique. Luc et Jean-Pierre Dardenne, Micheline Prel, Fatih Akin et Ange Zulewski.
Encore.
Je t'aime.
Encore. Non, ça va
je
pas.
Mais je ne peux pas.
Mais si, t'as un contrat, t'es payé pour
mais
ça.
Mais j'aime pas.
Tu fais ce qu'on te demande. Allez.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Avec Christine Masson.
Et Laurent Delmas.
Mais pas de mais, pas de commentaires.
France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour, bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors, il s'en passe en région, il y a des concerts magnifiques. Je vous ai parlé déjà des concerts en Vallespir, ou Vallespir si on parle un peu plus proche du français, le plus pointu. Donc ça c'est après Perpignan, c'est la Catalogne et il y a eu de très beaux moments. Il y en aura encore d'ailleurs le week-end prochain, le 7 octobre à Saint-Jean-Plat-de-Corps, à l'église Saint-Jean-Baptiste, un quintet à cordes autour de Schubert. Ensuite au Boulou, on va entendre le 8 de la musique de percussion avec les instrumentistes de Barcelone, à Céret, à l'église Saint-Pierre. Le 9, un concert symphonique avec le conservatoire albéniste Gironne, et etc., etc. Et puis hier, j'étais à Clermont-Ferrand pour entendre le premier concert de la saison de l'Orchestre d'Auvergne, qui fut superbe, avec Amaury Coeto, qui a joué superbement aussi. Ça se tient forcément. Il est le violon solo de ce très bon orchestre, donc il a joué magnifiquement. Le concerto de Beethoven, ce qui n'est pas rien. Beethoven dans sa splendeur, dans sa majesté, redoutable pièce, dirigée par un chef espagnol tout à fait vivant, drôle et musicien, ce qui est important quand même sur la scène, mais drôle après aussi au repas qui a suivi, Ernest Martinez Izquierdo, que je salue. Et ben ça continue, il va y avoir par exemple à Toulouse, une grande manifestation d'orgue, c'est le 16e festival international Toulouse les orgues, ça commence aujourd'hui et puis c'est jusqu'au 16 octobre, il y a vraiment énormément de choses, il y a l'orgue lui-même, évidemment, en tant que tel. On honore le facteur Cavaillé-Colle cette année. Et à Saint-Cernin, dans cette belle ville rose, il y a justement un instrument tout à fait fabuleux. Voici de Louis Vierne, compositeur, organiste presque aveugle, mais qui a réussi à maintenir une vie personnelle, artistique, musicale, quand même bien, bien puissante. Voici donc une toccata opus 53 de Louis Vierne, interprétée sur l'orgue Cavaillé-Colle datant de 1889, si à Toulouse, Saint-Cernin, et l'interprète, c'est Michel Bouvard.